place, je compte plus sur ma parole que sur les documents, mais en revanche, la bibliographie reste très importante et je l'actualise toujours. Donc, je vais vous expliquer un peu comment la brochure est constituée, comment vous allez vous l'utiliser, et après cela, je vous ferai donc ma petite leçon de morale. Ensuite, non, entre-temps quand même, après la brochure, je vous parle des examens, après la petite leçon de morale, et ensuite on commence le cours de l'année. Alors, d'abord, en ce qui concerne la brochure, voilà donc une brochure qui va vous donner l'essentiel de ce qu'il faut. Il faut vraiment la posséder et il faut vraiment que vous la portiez à chaque fois, vous en avez besoin. C'est la raison, enfin, c'est vraiment pour que vous l'utilisiez en cours que je l'ai fabriquée. Alors, qu'est-ce que vous allez y trouver? D'abord, vous allez y trouver l'essentiel, à savoir la bibliographie. Une bibliographie parmi mille autres. Vous verrez que j'ai privilégié la voix française. En d'autres termes, en fait, j'ai privilégié les ouvrages en langue française. La japonologie française est une des plus performantes du monde, cocorico, mais ce n'est pas la plus productive parce que nous ne sommes pas très nombreux, donc il y a une énorme bibliographie anglo-saxonne, essentiellement faite d'ailleurs par les Américains plus que par les Anglais, ou encore moins par les Australiens. Cette bibliographie anglaise n'apparaît que très peu. Je m'en excuse pas, c'est tout simplement pour vous faciliter la tâche. Le but essentiel de cette bibliographie étant d'aider donc ceux d'entre vous qui ne peuvent pas assister aux cours, ou de façon régulière, ou de façon continue, à donc compenser cette absence, et pour ceux qui assistent au cours, à compléter en fait ce que je dis en cours, parce qu'il est évident que dans une introduction qui porte sur l'ensemble de l'histoire du Japon, je ne peux pas tout vous dire de A à Z, donc vous aurez toujours des questions, des compléments que vous pourrez trouver dans la bibliographie. Elle est organisée donc en deux parties. Une première, si vous ouvrez un peu les premières pages, vous allez trouver donc une bibliographie générale, c'est-à-dire des ouvrages qui abordent de près ou de loin l'histoire générale du Japon, ou bien par une réflexion spécifique, ou bien par une présentation générale, plutôt scolaire. Chaque année, on vient me demander toujours ce qu'il faut lire pour ce cours d'histoire. En fait, je n'impose aucune lecture. Je suppose que vous avez suffisamment de travail avec ce que je vais vous donner. Vous en avez encore des tonnes avec tous vos kanji à apprendre, sans parler du reste. Donc, je n'impose pas de travail à l'extérieur de mon cours. Je n'impose pas de travail, cela dit, j'impose bien sûr le fait que les étudiants aient des connaissances, et ces connaissances, vous pouvez d'une part donc les piocher dans cette bibliographie générale. Il n'y a pas d'ouvrage meilleur que les autres. Tous les ouvrages que je vous présente ne contiennent pas trop de fautes. Certains sont de lecture facile, d'autres plus ardues. Donc vous trouverez ça par des petites étoiles. Il n'y a pas de meilleur ouvrage que... Il n'y a pas de meilleur ouvrage et d'ouvrage plus médiocre. Ils sont tous simplement d'accès différent. Là, c'est la première partie de la bibliographie. Ensuite, vous avez une seconde partie de la bibliographie. Mon cours est divisé en trois parties. Et pour chacune de ces parties, vous allez trouver une bibliographie plus spécifique. C'est-à-dire qui n'aborde pas l'histoire générale du Japon, mais qui aborde tel ou tel point concernant telle ou telle partie chronologique du cours. Donc vous avez une partie antique et la bibliographie, donc toujours avec cette idée que je préfère privilégier pour l'instant la bibliographie française en première année. Vous trouvez donc des ouvrages beaucoup plus pointus. Parfois, ce sont des ouvrages carrément d'érudition. Donc c'est pour vous les indiquer, surtout vous ne sentez pas obligé de les lire, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas lire d'ouvrages, mais il ne faut pas lire ces ouvrages très spécialisés pour réussir le cours. Il suffit d'y assister, de savoir ce qui s'y dit et de savoir la manière et l'esprit dont je fais ce cours. Donc bibliographie plus spécifique pour le cours 1, plus spécifique pour le cours 2 et enfin pour le cours 3, selon vos desiderata, vos intérêts personnels et votre temps, surtout bien sûr. Aller consulter ses ouvrages en bibliothèque ou acheter-les. Voilà pour la bibliographie. Ensuite, toujours dans la présentation de la brochure, celle-ci vous donnera donc le plan du cours. C'est important parce que nous supportons donc mon collègue M. Desplos ce semestre et M. Butel au second semestre la lourde tâche de vous initier au béaba de l'histoire du Japon. Et en histoire, je sais bien que hier j'ai sorti la statistique, je crois que j'ai dû sortir 95%, mais je ne sais pas ce qu'il en est exactement pour vous, mais je suppose que 95% 60% d'entre vous n'a jamais entendu parler du Japon avant 68. Excusez-moi, il y a plein de 68. Hein. Il y a 68, 168, 268, mais je parle toujours de 1868, donc la restauration de Meiji. Ça reste, surtout pour les premières périodes avec lesquelles nous avons commencé l'année, ça reste totalement exotique et étranger pour vous. Donc c'est assez difficile. Et je pense qu'en mettant noir sur blanc, donc le plan que je suis tout au long de l'année, ça sera beaucoup plus clair. Donc venez avec votre brochure quand je fais cours, de façon à ce que vous puissiez suivre le plan. J'indiquerai de temps en temps que nous sommes au point A, 1, 2, etc. Mais c'est tout ce que je ferai. Normalement, vous y retrouverez très facilement. Vous saurez exactement où on en est en suivant ce plan. Donc vous y trouverez un plan pour chacune des trois parties. Vous y trouverez des repères chronologiques. J'insiste sur ces repères chronologiques. Ils sont de base. C'est-à-dire que la liste peut vous paraître un peu longue comme ça, mais elle est infime par rapport à ce que je vous demandais de retenir. En termes de date, je reviens sur ce point quand je présenterai l'examen dans quelques minutes. Donc vous y trouverez un plan, outre la bibliographie, un plan de chaque cours que je vais suivre en cours, sans faire trop de digressions, je me suis promis cette année. Vous y trouverez donc des repères chronologiques, minimum, c'est le minimum à apprendre, le strict minimum, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas toutes les dates déjà de chacune de ces... De chacun de ces repères, c'est pas la peine de vous présenter à l'examen, vous ne vous en sortirez pas. Et vous y trouverez enfin un certain nombre de documents qu'on commentera en cours, parce qu'ils feront partie de mon cours. Alors moi, je ne suis pas du genre, je suis assez traditionnelle, pour ne pas dire ringarde. Je n'ai pas Internet, je n'ai pas de téléphone portable, je ne projette rien sur le tableau, et je compte sur la parole, voilà. Donc ça reste très traditionnel. Généralement, au bout d'une heure, je suis un peu fatiguée, je vous laisse 2-3 minutes de pause, mais je compte uniquement sur la parole, donc vous n'aurez pas de projection, tout est écrit, je reste sur l'écrit. Voilà ce que vous trouverez dans cette brochure, et puis à la fin, vous trouverez des indications sur l'examen, ce qui me permet de passer à la deuxième petite partie de cette introduction très générale à mon cours, l'examen. Alors, vous trouverez justement à la fin, je ne sais pas, c'est dans les 2-3 dernières pages, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour réussir son examen. La première étant, vous le savez quand même, depuis que vous êtes sur les bancs de l'école, le fait de travailler. Mais travailler, ça ne veut rien dire. Donc, je vous donne, dans cette partie consacrée à la présentation de l'examen, les critères sur lesquels je me fonde pour noter un étudiant. Que dire à ce propos? Je dirais que le critère essentiel, c'est quand même de bien connaître sa Donc il y a trois questions, hein, trois ou quatre questions à l'examen, des questions de cours tout bêtes. Qui est ce monsieur? Qu'a fait-il? Quelle est cette bataille? Et ce phénomène économique, l'explosion des domaines privés, par exemple, au 12e siècle, pourquoi, comment, etc. Ça s'est fait. Donc c'est assez classique. En plusieurs années, je pense que j'entame ma 10e année de cours d'histoire du Japon, je n'ai jamais eu une seule plainte d'étudiants parce que mes sujets sont archi-classiques. Et généralement, il n'y a aucune surprise, enfin non, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a strictement aucune surprise dans la façon dont ils sont libellés. Il n'y a pas de surprise non plus dans la façon dont je note, puisque tout est clair. Ce qu'il faut, c'est bien connaître sa chronologie, parce que vous êtes censés ici être des historiens. Donc, notre matière première, c'est le temps, et qu'il est absolument impératif de savoir, d'une part, ce qui s'est passé, tout simplement, donc quels sont les faits de l'histoire majeure de l'histoire du Japon, et d'autre part, surtout de les dater, si ça s'est passé en 600 ou 1600 ou je ne sais quoi encore, de les dater et d'établir des rapports de cause à effet. Les rapports de cause à effet, ça va se dire en passant avec la chronologie. C'est-à-dire que si vous vous astreignez à prendre les quelques repères chronologiques que je vous donne dans cette brochure, si vous repérez toutes les dates importantes que je vous signale comme étant importantes, c'est pas la peine d'apprendre toutes les dates non plus, évidemment, moi je suis historienne, hein, j'ai tendance à donner beaucoup de dates, mais il ne s'agit pas d'apprendre toutes les dates que je donnerai en cours, mais d'apprendre toutes celles que j'indiquerai comme étant essentielles. Si vous vous contentez de ça, et c'est déjà un sacré travail, soit dit en passant, si vous vous contentez de ça, je vous promets la réussite de vos examens. En fait, c'est ce que font tous les étudiants d'histoire, quand ils sont en histoire à la Sorbonne, dans une autre université, ils apprennent d'abord une chronologie. Ça peut paraître un peu bébête, mais il n'y a rien de mieux dans l'apprentissage que la répétition et l'intégration, enfin, mécanique de certaines choses. Et si vous apprenez simplement la chronologie, donc de A à Z, pour la période donc, qui concernera votre examen, je vous promets que vous réussirez, parce qu'en fait, il vous suffit d'apprendre une date, à quel événement ça correspond, de relire 3 fois mon cours, en général, et vous retiendrez tout. Voilà, vous retiendrez tout parce que vous aurez en mémoire les dates qui vont structurer, en fait, votre pensée. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait, enfin c'est comme ça que n'importe quel historien fait, c'est comme ça quand j'aborde encore un nouveau sujet, en tant que chercheuse, que je fais, je commence par savoir quel est l'essentiel en termes de date, ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, après j'apprends plus ou moins par cœur, enfin j'apprends par cœur, je me mets pas là en récitant et en hochant de la tête, enfin on peut apprendre comme ça d'ailleurs, ça se fait dans certains pays, dans plusieurs même, enfin il y a plusieurs techniques gestuelles pour apprendre, moi je fais pas comme ça, mais j'apprends par cœur quand même certaines dates, et puis ensuite tout est facile, tout le reste, il suffit de remplir des petites cases. Autrement dit, pour l'examen, vous avez besoin de savoir parfaitement votre chronologie, et j'insiste, et ensuite de lire deux ou trois fois le cours. Et je pense que même pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire du Japon, vous pourrez avoir de très bonnes notes. D'accord ? Donc pas de surprise. Après, bien sûr, vous suivez les conseils que je vous donne, les copies qui font trois lignes, évidemment, ça vaut 0,5 points, quoi. Donc vous dites tout ce que vous savez, et tout ce que vous savez qui a un rapport avec le sujet. Je n'admets pas les hors-sujets, donc j'ai appris telle partie du cours, mais pas celle-là, désolée madame, non, ça marche pas. Vous répondez à mes questions, on n'entre pas dans une boulangerie en disant j'aurais une grosse tranche de steak, c'est hors-sujet, quoi. Donc c'est hors-sujet pareil lorsqu'on me raconte tout ce qu'on sait sur le cours et que ça ne porte pas sur mon sujet. Voilà pour l'examen, pas de différence entre le contrôle continu et le contrôle final. Donc comme il n'y a pas de fiche de lecture, pas de travail en dehors du fait de suivre le cours, si vous ne pouvez pas suivre le cours, faites enregistrer, j'accepte qu'on m'enregistre pourvu qu'on me le dise, et les personnes le savent, pourvu qu'on me dise qu'on m'enregistre, il n'y a aucun problème. Et les enregistrements comme ça, sauvages, ça me déplaît, c'est comme si vous me photographiez ou que je vous photographiais sans vous demander votre avis. C'est ma parole et c'est normal que j'essaye de la contrôler. Alors, pour l'examen, je crois que c'est clair, donc pas de contrôle, pas de différence entre contrôle continu et contrôle final. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions pour l'examen, je passe au reste. Vous avez des questions ? Non ? C'est bon ? Bon. C'est l'avantage de cette brochure, justement. Généralement, les étudiants n'ont pas de questions, tout est clair sur la brochure. Alors, la petite leçon, maintenant, que je n'ai pas faite l'année dernière, ça va durer 2 minutes, hein. C'est vrai que l'année dernière, j'ai été un peu surprise. Ça fait 2 ans que je suis surprise par les notes des étudiants. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de niveau, je ne pense pas que les étudiants aient muté. Je me suis quand même posé la question, nos étudiants ont-ils muté aux langues orientales dans le département Japon depuis 2 ans ? Ont-ils muté pour accumuler, pour que les notes soient aussi catastrophiques ? J'ai toujours pas compris, je sais pas où est le problème. Je suppose que si vous venez le samedi, c'est parce qu'une bonne partie d'entre vous travaille, a des obligations diverses, donc vous êtes peut-être un peu plus...
C'est possible, trop tard.
Comment dire les choses ? Ouais. Plus investis dans l'étude que ceux qui viennent donc à des heures où toujours un peu libre, que ceux qui sont moins investis. Je sais pas comment. Donc autrement dit, je suppose que pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux d'entre vous qui travaillent, vous savez quelle est la valeur, ce que ça vous coûte déjà financièrement de suivre des études, quelle est la valeur d'un cursus universitaire. Mais apparemment, il y a des gens qui n'ont pas très bien compris que quand on vient à l'université, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit à l'université. Ce n'est pas un droit jusqu'à 90 ans de faire des études. C'est un choix, fondamentalement. Donc si on fait le choix, on fait jusqu'au bout. On n'a pas à ne pas travailler. Par exemple, pour mon cours, il est obligatoire. Mais si vous le trouvez trop lourd pour une première année, si pour une raison ou une autre, vous avez des problèmes pour le suivre, suivez donc le l'année prochaine, quand vous serez un peu plus libéré de d'un tas de problèmes. Ne le suivez pas parce que tout le monde le suit. Ne venez pas aux examens parce que tout le monde vient à l'examen. Ça n'a aucun sens de rendre une copie vide, ça n'a aucun sens de ne pas travailler, ça n'a pas de sens, tout simplement. Alors moi, évidemment, les copies, à 0,5, c'est quand je vois des tas comme ça, parce que vous êtes quand même drôlement nombreux, au mois de janvier, vous êtes 400 à passer l'examen, ça va vite, donc moi, ça ne me pose pas de problème au niveau de la correction. Plus la copie est... moins il y a de choses dans la copie, moins je passe de temps, évidemment. Mais cela dit, je me dis que ça n'a pas de sens, et qu'au bout d'un moment, il faut bien dire aux étudiants que ça ne va pas. Que ça ne va pas de venir sans rien faire et se présenter à l'examen sans rien faire que... Enfin, je ne comprends pas. Voilà, donc ça a duré... Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Donc j'arrête là-dessus. C'était la petite morale du début de l'année. Sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que je fais cours, donc c'est ce que je leur disais l'année dernière. Je fais cours à 200 personnes comme je fais cours à 3 personnes. Ça veut dire que moi-même, je suis... évidemment, je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit hier, donc ça fait un peu bizarre de dire deux fois je suis assez naturelle. On n'est plus tout à fait dans le naturel, mais vous verrez que je suis assez naturelle. Je vous parle donc sans langue de bois particulière, en ayant une certaine façon de concevoir l'histoire du Japon. Vous n'aurez aucune erreur, je crois, aucun contresens. Je vais même faire une histoire assez consensuelle de l'histoire du Japon, ce que vous trouverez un peu partout, même si en tant que chercheuse, évidemment, j'ai mes avis pour et contre. Mais dans ce cas-là, je vous l'indiquerai. Ce que je voulais dire, c'est que comme je fais cours de façon assez spontanée, j'attends de vous que vous soyez aussi assez spontanés. Pas dans des bavardages spontanés, mais dans des prises de parole spontanées. C'est-à-dire que vous pouvez me poser n'importe quelle question, tout ce que vous voulez, pourvu que c'est un rapport avec ce que je suis en train de dire là sur le moment, donc que ça ne concerne ni votre vie privée, ni la vie privée du voisin, ni, l'Empire ottoman au XVIe siècle, ou les Chinois de la période des Chines, ou enfin bon, pourvu que c'est un rapport avec ce que je raconte, ça peut être des questions de complément. Donc j'apporte, parce que je ne vous dis pas tout, hein, c'est une initiation, donc il y a des milliards de choses que je ne vais pas vous dire, que j'ai en tête, mais que je ne vous dis pas. Vous pouvez me demander des compléments d'information, et vous pouvez bien sûr, je vous autorise à me dire si je parle trop vite, de façon pas assez claire. Vous pouvez m'interrompre, enfin en levant le doigt et poliment, quoi. Pareil, quoi, mais tu parles pas clair, on comprend rien. Je vous répondrai très volontiers pour de simples questions de ce genre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence le cours? Parce que là, je crois qu'il est temps de commencer. Non? Ça va? Donc, pour ceux qui arrivent en retard et qui veulent des brochures, ne vous gênez pas pour aller les récupérer, parce qu'en fait, on va commencer par travailler sur un document.
Madame?
Oui?
Est-ce que vous faites aussi cette histoire de 5 fois
trop long?
Non, moi je veux des connaissances, je me moque. D'ailleurs, soit dit en passant, je vois, non, parfois, des fois, quand je vois des copies où il y a vraiment, mais une faute à toutes les syllabes, je daigne mettre quelle orthographe. Bon, voilà, mais ça, il en faut vraiment beaucoup. Mais non, mais attention, je ne vous rate pas sur les connaissances en histoire. Bien sûr que non, je suis une prof d'histoire, je ne suis pas une grammairienne. Et oui, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je ne les vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de téléphone portable, je ne sais même pas ce que c'est qu'un SMS. En gros, je n'ai jamais utilisé. Je sais que l'orthographe est un peu particulière. Ça ne gêne pas. Moi, ce que je veux, c'est des connaissances et des dates. Mais que ça ne vous rassure pas, mademoiselle. Hein. Que ça ne vous rassure pas.
Elle est assez surprise, mais ça va. Je sais pas, j'ai peut-être un peu de sévérité.
Elle est plus tolérante.
Ouais.
Que l'autre.
Alors là, je parle, elle nous fait dire la morale.
Ouais.
C'est bizarre, hein.
C'est parce que l'année dernière c'était catastrophique, pour ça qu'il faut tout simplement ramener.
Ah, une autre question, et puis ensuite on commence vraiment, oui. Alors, je vais vous demander de le silence. Oui, monsieur. Pardon. Monsieur. Ah non. Si, j'en ai une. Mais je ne communique pas par mail avec les étudiants. Si vous avez des choses à me dire, vraiment, vous venez. À la fin du cours, je vous consacre 3 heures toute l'après-midi jusqu'à 8 heures. Mais je ne communique pas par mail avec les étudiants. Je ne mets pas mes cours par mail sur Internet. Non, j'assume. Rétive. Ça fait très bizarre de dire ça, mais je vous ai dit que j'étais naturelle. Hein, donc, sévère néanmoins, je vous le dis. Oui, c'est des mœurs bizarres comme ça, où des enseignants de toutes les facs de France reçoivent des dizaines de mails. C'est incroyable. Enfin, j'assume. Voilà. Mais venez me voir à la fin, monsieur, si vous avez des choses à me demander. Je suis à votre entière disposition. Je reste à l'entière disposition des étudiants. On y va, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Alors, je vous demande de prendre votre brochure. Et de après le petit la petite porte dont je vous donnerai plus tard des explications. on dit un torii en japonais, vous avez une chronologie. Et donc, je vais faire là, maintenant, l'introduction générale de l'ensemble du cours de l'année, d'accord ? Et puis ensuite, quand on aura terminé la présentation de cette chronologie générale, qui va vous aider très fortement à comprendre dans quel univers nous allons nous promener cette année, on fera une introduction, et je pense qu'on terminera avec ça, plus spécifique sur le premier cours, donc qui vous parlera de l'époque antique. Mais pour l'instant, donc introduction générale de l'ensemble de l'année, consacrée à la chronologie générale du Japon. Une chronologie générale donc qui est assez complexe bien sûr, parce que l'histoire du Japon est fort longue. L'histoire du Japon, c'est vraiment très long. Vous avez plusieurs repères possibles. Si on parle vraiment de l'histoire au sens strict du terme, c'est-à-dire de cette période historique qui fait qu'une culture produit ses propres documents écrits sur elle, c'est ça l'histoire, hein. L'histoire, c'est quand une culture produit ses propres documents écrits sur elle. La proto-histoire, c'est pas la peine de noter la définition de la proto-histoire, mais c'est quand une société donc est décrite par écrit, mais par une autre société. Quant à la préhistoire, c'est quand il n'existe absolument aucun document écrit sur une société considérée. D'accord ? Donc c'est ça la différence entre préhistoire, proto-histoire et histoire. Donc l'histoire du Japon, au sens strict du terme, quand le Japon commence à produire ses propres documents sur lui, c'est 7e, et d'ailleurs 7e siècle. Nous allons commencer donc cette histoire au 7e siècle. Cela dit, ça c'est pour une définition extrêmement stricte de l'histoire du Japon. Si on prend la définition au sens général, vague du terme, à savoir à partir de quand il existe quelque part quelque chose qu'on pourrait reconnaître comme étant singulier, je peux vous proposer deux dates. Et évidemment, nous n'irons pas jusqu'à la toute première, à une époque d'ailleurs où l'archipel n'existait pas en tant que tel, parce qu'il était encore relié au nord, au sud, au continent. Cette époque, c'est 30 000 ans avant Jésus-Christ, c'est lorsqu'on a retrouvé le premier ossement humain sur le territoire qui correspond aujourd'hui à l'archipel. 30 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, ça fait un sacré bout de chemin pour cette histoire, donc au sens large, du Japon. On ne va pas partir de là. On ne partira pas non plus des années, parce que quand on est dans ces périodes préhistoriques, en fait, on compte en millions d'années allègrement. On ne partira pas non plus d'une seconde date possible, comme point de départ de l'histoire du Japon, celle de moins 10 000, moins 12 000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fait, une période, je vous en parlerai, qu'on appelle la période Jomon, et qui se caractérise par le fait... par des poteries d'un style particulier et qui ont été, nous disent les Japonais, les premières poteries du monde à être fabriquées au monde. Donc, je vous répète, moins 10 000, moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, les premières poteries du monde seraient donc le fait, on les appelait pas encore les Japonais, mais de gens qui habiteraient sur l'archipel. Alors, enfin, l'archipel existe depuis le moins 10 000 ans avant Jésus-Christ exactement. Je ne prendrai pas cela comme point de repère non plus, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'entre 30 000 ans avant Jésus-Christ ou 10-12 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, ça fait quand même une sacrée période, enfin c'est extrêmement long, cette histoire du Japon, et que lorsque vous tombez sur des ouvrages d'histoire générale du Japon, en fait, vous trouverez mille manières de la part des auteurs de vous présenter cette chronologie générale. En fait, vous allez trouver mille façons d'établir des périodisations, et chaque auteur choisissant sa propre manière. Autrement dit, si on prend simplement 10 000 ans avant Jésus-Christ, par exemple, 10 000, 12 000, lorsqu'apparaissent ces fameuses premières poteries de l'histoire du monde, jusqu'à nos jours, certains vont vous découper donc cette longue histoire du Japon en une dizaine de périodes, donc vont vous la découper en 20 périodes, d'autres en 25, ou plus encore, ou moins encore. En fait, vous n'allez trouver aucun accord de la part des historiens, donc, pour rendre compte de cette chronologie. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord qu'on commence par comprendre ces différences dans la façon de penser le temps long de l'histoire du Japon. Et puis, la deuxième raison qu'il y a donc à s'attarder sur ces différentes façons de périodiser l'histoire du Japon, c'est bien sûr de comprendre pourquoi nous, enfin moi, parce que je ne vous laisse pas trop le choix, pourquoi nous allons donc choisir telle périodisation plutôt que telle autre. Voilà. Alors, cette longue, enfin, ces différences dans la périodisation, je vous le dis tout de suite, viennent essentiellement du fait qu'on utilise plusieurs critères pour définir ce qu'est une période. Voilà, on utilise plusieurs critères pour définir ce qu'est une période. Et en fait, chaque auteur fait un peu sa petite cuisine. Tantôt utilise tel critère. Bon, c'est un peu abstrait, mais vous allez comprendre dans deux minutes. Hein. Tantôt utilise tel critère, tantôt utilise tel autre critère. Et du coup, chacun faisant sa petite cuisine, évidemment, ça donne cette hétérogénéité totale lorsqu'ils rendent compte de l'ensemble de cette histoire. Parmi ces différents critères, il y en a au moins trois. C'est-à-dire qu'il y a trois manières de périodiser l'histoire du Japon auxquelles on se réfère d'habitude, et les auteurs prennent tantôt cette manière, tantôt l'une, tantôt l'autre. Et ces trois manières, elles apparaissent sur le document donc, que je vous invite à regarder. Première manière de périodiser l'histoire du Japon, c'est-à-dire de faire des découpages hein, dans cette longue histoire du Japon, c'est ce qu'on appelle la périodisation en Nengo. Alors, je ne sais pas très bien si vous voyez, parce que là, il y a du soleil, les stores ne sont pas levés, et puis en plus, j'écris en bleu. Est-ce que vous voyez, le mot est quand même sur la brochure, mais est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit au tableau ? Nengo ? C'est bon ? Bon, s'il n'y a pas de... Alors, première manière, entre mille autres, hein, en plus, je ne vous en présente que trois, les trois principales, mais il y en a bien d'autres et on les présentera au fur et à mesure donc, des cours. Première manière, c'est ce qu'on appelle donc la périodisation en Nengo. Go, ça veut dire non, entre autres choses. Non, go, non. Nen, c'est l'année. En français, on va traduire de façon pas littérale, un Nengo, c'est un nom d'air. Un nom d'air. Donc en fait ici c'est année, temps, air. Nen, vous connaissez je suppose le mot toshi qui veut dire année, mais c'est vraiment au sens général du terme année, air, temps. Donc un nom d'air. C'est l'idée que on va considérer un fait particulier, n'importe quoi, une bataille, la date de naissance d'un empereur ou je sais pas moi. N'importe quoi d'autre, une invasion de je ne sais qui, par exemple les Mongols au XIIIe, on va prendre un fait considéré et on va le replacer dans une ère, dans un Nengo donné. Voilà, on va dire ce fait-là s'est passé la première année de l'ère machin chose ou la quatrième année de l'ère bidule chouette. C'est pas très orthodoxe, donc je fais attention quand même, enfin je pense que vous avez compris. Donc on utilise un système d'ère, le Japon, l'histoire du Japon, serait la succession d'un certain nombre d'ères, Nengo, et chaque fait entre dans une des ères données. On parlera de la quatrième année de l'ère, Showa, par exemple, que vous connaissez, ou aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, nous sommes là en 2009, nous sommes pour les Japonais, pour l'ensemble des Japonais, en la 21e année de l'ère Heisei. D'accord ? Bon, je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu dire que nous sommes en 2009 pour les Japonais, dans la 21e année de l'ère Heisei. Donc c'est le système Nengo, vous voyez, il est très très actuel, puisqu'on l'utilise, d'ailleurs on y reviendra, très couramment de nos jours au Japon. Alors, ce système en fait comporte au total maintenant, là jusqu'en 2009, depuis le moment où il est né, je vous le dis dans un instant, jusqu'à aujourd'hui, plus de 250 ères. 250 R, c'est-à-dire pas mal, beaucoup trop pour les retenir, soit dit en passant. C'est un système, je dirais, très traditionnel au Japon, très traditionnel. Vous verrez si je suis assez allergique au mot traditionnel, hein, mais là, dans une introduction, je ne vous fatigue pas trop, parce que ça ne veut rien dire, évidemment, mais disons, on va dire très ancien. C'est un système très ancien que ce système de périodisation en Nengo. Il date, donc la première fois qu'on utilise ce système-là au Japon, c'est au 16e siècle, en plein milieu, c'est en 645. C'est la raison pour laquelle dans le tableau chronologique que je vous ai présenté, vous voyez apparaître donc l'ère Taika, on l'appelait comme ça. Ça a duré 5 ans, de 645 à 650. C'est la première ère donc établie au Japon, dans l'histoire du Japon. Avant, il n'y en avait pas. On n'utilisait pas ce système-là. Et depuis, sans rentrer dans les détails, depuis, en fait, on continue jusqu'à aujourd'hui, 2009, à l'utiliser. Alors, ce que je fais, mademoiselle, c'est... je préfère dire un tas de choses, puis ensuite, vous me posez votre question parce que... J'ai encore rien dit sur ce système, et comme ça on gagne un peu de temps. Donc un système fort ancien, hein, pour nous en tout cas, quand on n'est pas trop historien, hein, 645, ça paraît bien loin, qui est né en 645, qui en fait pendant une cinquantaine d'années, les Japonais hésitent un peu, de 645 jusqu'en 701 environ. Tantôt ils utilisent ce système, tantôt ils ne l'utilisent pas. Donc en fait, il faut surtout compter que c'est à partir de 701, l'ère Taïro, comme vous le voyez donc sur votre brochure, que le système est définitivement adopté dans l'histoire du Japon. Et de 701 jusqu'en 2009, de façon absolument continue, sans aucune interruption, les Japonais pensent leur histoire... Ils ont d'autres façons, je vous l'ai dit, de penser l'histoire du Japon, hein, mais en tout cas, ils ont adopté celle-ci pour des siècles et des siècles, jusqu'à 2009, encore de 701 à 2009, le système est utilisé de façon continue. Donc un système ancien, traditionnel, un système persistant, hein, depuis 701, un système à l'origine chinois, ça c'est très important de le dire. D'ailleurs, vous allez voir que pendant pas mal de temps, nous allons parler de la Chine, on va même commencer ce cours de l'Antiquité par la Chine. Donc c'est un système qui est d'origine chinoise, ça veut dire que cette idée de dater les faits dans le cadre d'ère vient de Chine, et en 645, les Japonais de l'époque ont importé ce système de Chine. Sans doute le connaissaient-ils avant, mais ils ont fait le choix, on verra un peu plus tard, on verra dans quel contexte ça s'est fait, ils ont fait le choix en 645 d'adopter définitivement ce système dans leur... d'adopter ce système dans leur culture. C'est un système qui vient de Chine. Les mots d'ailleurs, Taika, Heisei, et les 250 et quelques noms d'air qui existent dans l'histoire du Japon, là vous ne les avez pas tous, hein, évidemment, je n'allais pas mettre les 250 sur un document, ça n'aurait eu aucun sens. Vous avez les plus connus, donc sur la partie gauche de ma chronologie, vous avez les plus connus. Tous ces noms-là, en fait, viennent de Chine. Ce sont des mots chinois. D'ailleurs, Taika, quand on entend comme ça, pour ceux qui connaissent un peu le japonais, Heisei, tout ça, c'est pas du Yamato Kotoba, comme on dit, donc ce ne sont pas des mots proprement japonais, ce sont des mots sino-japonais. Et de fait, tous ces mots-là, Taika, Heisei et tous les autres, vous les voyez, Bunka, Genroku, qui sont dans votre liste, et tous ceux qu'on va voir en cours, sont importés de Chine. On est allé les chercher dans des classiques chinois. C'est-à-dire qu'on a utilisé, par exemple, des livres d'histoire chinois qui abordaient tellement ou telle notion, et on s'est dit, voilà, cette notion ferait bien pour un nouveau Nengo. Donc ils sont tous d'origine chinoise parce que le système lui-même est chinois. Vous faites attention, au Japon, on a l'habitude d'utiliser deux mots, Heisei, Taika, ou plutôt deux syllabes, qui sont deux mots aussi parce qu'ils ont un sens, pour constituer les Nengo. Vous trouverez dans les périodes un peu anciennes, par exemple au 8e siècle, certains Nengo composés de quatre syllabes. D'accord ? Mais en fait, sur les 250 et quelques Nengo qui existent pour l'histoire du Japon, la plupart sont composés en deux mots. Mais qui viennent de Chine, donc c'est toujours le principe, qui viennent de Chine, de je ne sais quel classique chinois. Ces mots, deux ou quatre, ont une valeur magique. Anthropologiquement, on peut dire que le système Nengo a une portée magique, une valeur magique, une fonction magique. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de vos connaissances anthropologiques, mais magie, c'est pas du tout péjoratif. Dans ma bouche, c'est un concept d'anthropologie comme un autre. La magie, c'est l'idée d'avoir une action, ce qui est magique, le geste, la parole ou l'action donc qui vise à modifier, à transformer le monde, tout simplement. Donc, selon que cette transformation du monde vous est positive ou négative, vous parlez de magie blanche pour positive et de négative pour magie noire. Mais il est fondamentalement magique parce que, en fait, l'idée du Nengo, en Chine et au Japon, c'est qu'en créant, en décrétant une ère, que nous arrivons donc maintenant dans une nouvelle ère, dans un nouvel Nengo, vous espérer avoir une influence, un impact sur le monde. C'est la raison pour laquelle ces deux ou quatre, mais la plupart du temps c'est deux, hein, donc maintenant vous avez compris, je vais toujours dire deux, ces deux mots qui composent un Nengo sont toujours positifs, toujours, puisqu'ils sont censés ouvrir une période faste. Alors, ouvrir une période faste, ou alors, inversement, mais ça revient un peu au même, dans la magie il y a toujours deux visages, ou alors conjurer un mauvais sort. il vous arrive un tremblement de terre, votre fils, vous êtes empereur et le fils tant attendu, etc., ne vient toujours pas, vous changez d'air, mais sans jeu de mots de ma part, vous changez d'air et vous décrétez que désormais tout ce qui s'est passé, donc sous l'air dans laquelle vous êtes, ne vous a pas été favorable, qu'il serait temps d'inaugurer un nouveau temps, justement, un nouveau Nenbo, et vous en créez un. Donc ce système est magique parce que le caractère positif des mots qui composent les Nenbo est censé avoir une action sur le monde. Alors, exemple de choses positives, Heisei, une ère qui existe depuis 1989, comme vous le dit votre brochure, et c'est la paix au Japon, la paix. Sei, c'est la constitution, la formation de la paix. Bon, évidemment, ça fait un peu bizarre dit comme ça, ça sonne pas très joli en français. Sachez que Heisei vient aussi d'un classique chinois, enfin de plusieurs classiques chinois, ça dit en passant. Mais bon, au Japon, apparemment, ça a une valeur, ça a sans doute... Oui, traduit en français, c'est pas terrible, mais au Japon, ça doit bien sonner. Taika, je l'ai dit, donc la première ère adoptée au Japon, ça veut dire le grand changement. Taille, grand, ka, changement. Parce que justement, 645 correspondrait peut-être à une année où on a opéré un certain nombre de réformes au Japon, on en parlera bien sûr, et ces grandes réformes ont, semble-t-il, marqué les gens d'époque qui ont cru nécessaire d'au moins de les fêter par la création, enfin, d'abord par l'adoption et ensuite la création de ce système Nengo. Non, pardon, d'abord par l'adoption de ce système de Nengo et ensuite par la création donc de ce Taika particulier. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je ne pense pas vous l'avoir dit. En fait, Taika et Heisei, tous les noms sont tirés de classiques chinois, mais attention, les Nengo qu'utilisent les Japonais dans l'histoire du Japon ne sont jamais les mêmes que ceux des Chinois. Donc en fait, les Chinois, ils vont chercher aussi dans leurs classiques, mais ils ne prennent pas les mêmes mots pour leur propre Nengo. D'accord ? Bon. Alors, voici un système donc traditionnel. Je précise deux, trois choses encore. La première, c'est un système ancien, c'est un système d'État. Et plus précisément encore, un système impérial. Dans l'histoire du Japon, de 645 jusqu'à nos jours, 2009, seul l'empereur, celui qui veut bien s'appeler l'empereur, s'appeler empereur est une chose, être empereur c'est une autre chose. Hein. On verra ça un peu plus loin, c'est-à-dire que vous comprendrez plus loin. Surtout que, justement, 645, ils ne s'appelaient même pas encore empereur. Enfin, ils n'avaient même pas récupéré le titre des Chinois. C'était des chefs de clan. Mais bon, pour l'instant, on fait une présentation générale, donc on ne rentre pas dans les détails. Mais en 645, c'est un système d'État. Seul l'empereur, celui qui deviendra un peu plus tard l'empereur, qu'on appellera un peu plus tard l'empereur, jusqu'à nos jours, est censé pouvoir créer un Nengo. Donc en fait, un privilège extrême, suprême au Japon, que celui d'avoir le pouvoir de créer des noms d'air. C'est un privilège suprême et la personne suprême au Japon, d'un point de vue politique et idéologique, ça a toujours été l'empereur, depuis l'histoire, c'est-à-dire justement depuis le 7e siècle. Donc c'est un système d'État, et plus précisément un système impérial. Et même lorsque vous verrez nos empereurs du Japon totalement... méprisés n'ont jamais été, mais disons maltraités, pas physiquement forcément, mais emprisonnés, par exemple interdits de séjour en dehors de leur palais, sauf en cas de feu, je prends les questions juste un peu après, c'est toujours eux qui créeront donc ces Nengo, et même les shoguns, si puissants soient-ils, n'arriveront jamais à leur retirer cette prérogative. Alors, juste une chose à dire, et ensuite je prends les questions à propos de ce système de Nengo. C'est que dans l'histoire de ces Nengo, il faut faire une distinction. Il y a avant 1868 et après 1868. Alors, on va faire... c'est assez simple à comprendre. On va commencer par avant 1868. Avant 1868, donc de 645 à 1868, ces Nengo, puisque donc c'est un système, on dira, qui repose sur des fondements magiques, ces Nengo pour un empereur donné, qui a un mandat donné, donc il règne de telle à telle date, dans le laps de temps de son mandat, il pouvait créer à sa guise à sa guise, en consultant bien sûr ses fonctionnaires, 2, 3, 4 ou 5 Nengo. Donc en fait, c'était en fonction justement des événements. Les Nengo sont systématiquement créés, donc il y a forcément un Nengo différent, une nouvelle ère, à chaque avènement d'empereur, toujours. Dès qu'un empereur donc, remplace un autre empereur, on crée pour lui, enfin il crée pour lui, un Nengo nouveau. Ça c'est une règle. Mais en dehors de ça, un tremblement de terre plus catastrophique que les autres. Je le disais, le fils tant attendu, quoi qu'on verra, il y a eu des impératrices, surtout au 8e siècle, elles ont été même assez nombreuses dans l'histoire du Japon, mais bon, c'est vrai que, principe, comme dans toutes les sociétés traditionnelles, c'est mieux d'avoir un fils, n'est-ce pas, que d'avoir un... Je plaisante, là, attention, hein, que d'avoir une fille. Et le fils tant attendu, qui vient enfin, sa naissance peut valoir donc un nouveau Nengo. Bref, comme on ne peut pas... Comment dire comme il n'y a pas de règle très précise, en dehors du fait d'emprunter donc, un mot à valeur positive dans les classiques chinois, les Nengo sont assez nombreux avant 1868, puisqu'en fait ils dépendent des événements et du pouvoir de l'empereur en place de décréter un nouveau Nengo. D'accord ? Donc vous allez en trouver pas mal. En revanche, après 1868, on a simplifié un peu les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on les a modernisées, entre guillemets. On a gardé le système. On a quand même gardé le système. Ça, c'est remarquable. On a gardé le système. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu tout simplement l'abandonner, hein, une fois qu'on s'est modernisé. On a quand même gardé le système. Mais on l'a simplifié en ce sens que, à partir de 1868, un règne impérial égale un Nengo et un seul. Donc, l'empereur, que l'on appelle aujourd'hui l'empereur Meiji Tenno, on l'appelle comme ça de façon posthume. Il ne s'appelait pas comme ça, et on ne l'appelait pas comme ça, et d'ailleurs, on ne l'appelle pas comme ça un empereur, on ne s'adresse pas comme ça un empereur, mais pour un historien, de façon posthume, on dit l'empereur Meiji. Cet empereur Meiji, ayant régné de 1868 à 1912, un règne, une ère, il n'y a donc qu'un seul Nengo pour son règne. Idem pour l'empereur qui vient après lui, l'empereur, vous pouvez suivre avec le document, hein, l'empereur Tai... Taisho, c'est la fatigue, l'empereur Taisho, ensuite l'empereur Showa, et aujourd'hui, on ne l'appelle pas encore lui parce qu'il n'est pas encore mort, mais on l'appellera à sa mort, je ne sais quand, l'empereur actuel, on l'appellera l'empereur Heisei. Et c'est Tenno. Retenez pas, je note pas le mot Tenno, c'est un peu compliqué, j'en parlerai bien sûr largement plus tard. Donc après 68, un règne impérial, un Nengo. Et donc les choses sont simplifiées. Donc vous n'avez pas à vous demander, par exemple, là, maintenant, en dehors de la mort qu'on ne souhaite pas bien sûr à l'empereur actuel, d'ailleurs on souhaite la mort de personne, non mais je le dis, enfin, ni celle d'un empereur, ni celle d'un paysan, ni la mort de personne, vous n'avez pas à vous demander demain dans quelle ère on sera toujours à l'ère ici. Voilà. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Alors, dans les ouvrages, et ensuite je prends les questions, dans les ouvrages de nos historiens, qu'ils soient japonais ou qu'ils soient occidentaux, vous allez trouver des chapitres entiers consacrés à telle ère. Chapitre 10 consacré à l'ère, il y en a 1000, donc à l'ère Gennoku à la fin du XVIIe siècle. Chapitre 11 consacré à l'ère Bunka ou Tempo au début du XIXe, etc. Vous allez trouver ce genre de choses. Et selon les options idéologiques ou scientifiques de vos auteurs, les uns parleront plutôt de telle ère, d'autres plutôt de telle autre. Évidemment, quand ils utilisent le nom d'un Nengo pour qualifier une période, ils font l'histoire. Ils ne sont pas dans l'idéologique ou dans le magique. Mais c'est que certaines ères correspondent à des périodes tellement importantes, le hasard, à des périodes tellement importantes, qu'en fait, on a gardé ce système de Nengo pour périodiser certaines tranches de l'histoire du Japon. Donc, voilà ce que vous pouvez trouver dans vos chronologies générales. On verra après quels sont les aspects, pourquoi nous, on ne va pas garder système. Mais pour l'instant, j'aimerais, mais je vais prendre quelques questions, pour l'instant, j'aimerais quand même passer au deuxième mode de périodisation de l'histoire du Japon. Mais je prends les quelques questions qui m'étaient posées. Je les prends toujours un peu après, je le dis, parce que comme... Je dis beaucoup de choses, peut-être qu'entre-temps j'y ai répondu et j'essaye de garder du temps. Monsieur. Ah oui, alors dans les plusieurs questions... Je vais répondre vite alors. C'est-à-dire que je... Allez-y. Ah non, ah oui, alors bon, là vous verrez ça avec. Non, généralement on utilise en japonologie le système Hepburn. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, le système Hepburn, en principe non, vous ne mettez pas de pluriel. En revanche, pour tous les mots courants du genre geisha, samouraï, etc., qui font quand même partie des mots historiques, consultez le Larousse. Si le mot japonais est dans le Larousse ou dans le Littré ou dans je ne sais quoi, vous adoptez l'orthographe qu'on utilise. Quand on est un Français lambda qui connaît rien au Japon, donc samouraï avec OU, etc. Mais dès que vous êtes plus japonologue, je dirais, vous prenez le système Hepburn, donc pas de S. Et pas de X non plus.
Évidemment, vous avez dit que les noms d'air, ça désignait en général des phrases, mais assez positives.
Les noms d'air, oui, c'est pas des phrases, c'est des mots, des notions, mots, hein. Oui, oui.
Ouais. Mais après, vous avez dit que par contre, c'est des noms des enfants.
Ah non, j'ai dit que à partir de 1868, donc on continue à créer des noms d'air, des nengo, que ces noms d'air deviennent ceux des empereurs à titre posthume, et qu'une fois morts, ces empereurs portent le nom d'air qu'ils ont créé.
Donc les noms d'air n'ont pas forcément de vrai rapport avec ce qui se passe en réalité, ça. Par exemple,
l'RSA, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que le système, on ne va pas l'utiliser. Ça correspond à rien d'autre que la volonté de l'empereur d'ouvrir une ère, ou alors l'avènement d'un empereur. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. C'est un système purement idéologique et anthropologiquement parlant magique. Rien à voir. C'est la raison pour laquelle on ne va pas l'utiliser. Ça n'a pas de sens pour nous. 89, ça correspond juste à la mort de l'ancien empereur. Est-ce que c'est... J'avais une question. Oui. Oui. Ah, pour eux, comment on fait pour eux? Non, on prend pas les cinq noms. On prend pas. C'est-à-dire que c'est à partir de 1868 que l'on prend un nom d'air pour un empereur. Non, eux, on leur donne un nom, mais qui n'a rien à voir avec le nom d'air. Ok, faites bien de me poser la question. Une troisième question, j'en prends pas 36 non plus parce que j'ai. Enfin, c'est une question de dosage. Monsieur, oui. Mesdemoiselles, j'entends rien de ce que vous dites, monsieur.
Est-ce qu'il est utilisé un calendrier suffisamment vaste pour couvrir toutes les herbes à chaque fois qu'on
peut utiliser 100 ans? Oui, bien sûr. Il existe, si vous voulez trouver par exemple dans un ouvrage comme le grand dictionnaire anglais de, comment il s'appelle, le Nelson, vous trouvez à la fin toutes les noms d'herbes, mais faites très attention, et d'ailleurs on en reparlera. Tout cela étant lié au système impérial, et le système impérial étant quelque chose d'extrêmement délicat au Japon, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord sur les listes officielles qui sont données par la cour impériale. C'est-à-dire qu'en fait, vous trouvez des listes. Dans le Nelson, vous allez trouver la liste sur laquelle s'entendent une majorité de Japonais, mais vous allez voir qu'il y a eu des périodes du Japon où il y a eu deux cours, par exemple, et il y a plein d'empereurs que l'on ne veut pas mettre sur les listes officielles. Donc, il existe des listes, bien sûr, c'est très facile à trouver, mais elles sont pas... Il y a des listes officielles et puis il y a des listes non officielles. D'empereur. Et de Nengo aussi. Non, c'est pas clair ce que j'ai raconté. Bon, non, je trouve... Bon, non, j'ai cru... j'ai répondu à votre question, monsieur, je sais pas. Monsieur, j'ai répondu à votre question.
Voilà.
Super. Bon, et une dernière question, monsieur.
Je voulais savoir si c'est passé contre 650.
Il y a eu deux, trois autres noms d'air, je crois, dont je ne saurais vous donner les noms. Ce qui s'est passé en termes historiques, on le verra en cours largement, ne vous inquiétez pas. En termes de Nengo, il y a eu deux, trois autres Nengo, comme ça, mais ils n'ont pas couvert toute la période. C'est-à-dire qu'il y a des trous. C'est-à-dire qu'il y a des périodes entières, pendant ces 50 ans, où il n'y a pas de Nengo, donc il n'y a rien, tout simplement. Et on compte sur d'autres façons de compter le temps. Voilà. J'y vais, je continue. Alors, deuxième façon de périodiser l'histoire du Japon, qui est beaucoup moins traditionnelle que cette façon en Nengo, mais qui est utilisée tout autant dans les ouvrages d'histoire, puisque notre idée, c'est comment c'est-il que les temps de périodisation du Japon et qu'allons-nous adopter nous autres comme périodisation. C'est ce qu'on appelle donc beaucoup moins traditionnelle parce qu'elle est née à la fin du 19e siècle. Au début du 20e, donc elle est née à la fin du 19e siècle, et puis le temps que ça se répande un peu et que tout le monde soit d'accord, c'était plutôt début 20e, et c'est donc à côté du système de Nengo, celui de Jidai. Voilà. Alors, Jidai, c'est facile à retenir. En japonais, ça veut dire époque. Époque, tout simplement. Période, époque. En français, on dit plutôt époque, période, mais très franchement, il y a un... enfin, même en français, il n'y a pas trop de différence entre les deux termes. Donc, une périodisation en Jidai, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des Japonais qui, au XIXe siècle, entrent, vous le savez, en contact avec l'Occident de manière légèrement brutale d'ailleurs. Enfin, ils ne nous ont rien demandé, mais on est venu quand même leur ouvrir leurs portes. Et qui se modernisent, hein, c'est vous modernisez ou vous disparaissez de la surface de la planète, enfin sur le plan géopolitique, j'entends. Donc, dans ce vaste mouvement de modernisation, les Japonais ont aussi fait des efforts pour adopter donc certaines notions, des méthodes, des institutions, etc., qui leur venaient d'Occident. Et ce concept d'Occident, de Jidai, pardon, est en fait une adaptation japonaise, c'est la manière dont les Japonais ont compris en fait l'historiographie qui se faisait à la fin du 19e siècle en Europe. Ils se sont dit, on ne va pas saucissonner notre histoire du Japon en 250, enfin, elle n'avait pas tout à fait 250 à l'époque, mais on ne va pas, quoique, si, parce que entre, bon, enfin bref, on ne va pas saucissonner notre histoire en Engo, on va plutôt essayer de penser la globalité de notre histoire en un certain nombre d'époques. Voilà, il y a des époques qui se sont succédées dans l'histoire du Japon. Alors on est dans un tout autre domaine bien sûr que ce Nengo là, c'est pas du tout, les Jidai ne sont pas du tout déterminés par la maison impériale, ce sont les historiens qui ont réfléchi à l'ensemble de leur histoire du Japon et qui se sont dit, ben voilà, d'après ce qu'on voit, il y a un certain nombre de Jidai qui se succèdent dans cette histoire et nous allons essayer de penser notre histoire donc en mettant tous les faits dans telle ou telle époque, dans telle ou telle Jidai. Alors, je vous disais, fin 19e et aussi 20e, on a un peu aménagé le système. Aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, donc cette périodisation en Jidai, je dirais, classe les faits en fonction de deux critères, essentiellement. Le premier, donc, premier type de Jidai, premier type de période qu'on a défini entre le 19e et aujourd'hui, et qui est assez courant, hein, tous les Japonais connaissent ça, ce sont des périodes qui sont définies sur la base de critères archéologiques. Ce sont les premiers Jidai, en fait, que vous voyez dans votre brochure. Voilà, j'avais parlé de poterie tout à l'heure, entre 10 000 et 12 000 avant Jésus-Christ. Premier Jidai, très connu de tous les Japonais, de l'histoire du Japon, c'est la période Jomon Jidai. Ensuite, il y aurait eu après une période Yayoi, Kofun, etc. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner. Sachez quand même que cette deuxième case-là est assez exhaustive. Autant je ne vous ai pas donné les 250 Nengo, ça n'aurait eu aucun sens et ça aurait été un peu long en plus. Autant là, vous avez les principaux Jidai quand même, les principales périodes de l'histoire du Japon même dans l'esprit japonais. Alors, ce critère archéologique dont je parlais, en deux mots, Jomon, c'est les poteries, les premières poteries du monde, disent les Japonais, avant même que l'agriculture n'apparaisse sur la surface de la Terre. Donc là, je parle pour le Moyen-Orient, donc pour ce berceau de l'agriculture, qu'est le Moyen-Orient, 8000 ans avant Jésus-Christ, l'âge néolithique, quand les hommes inventent l'agriculture, avant même cela, 10 000, 12 000 ans avant Jésus-Christ, des premières poteries, nous disent les archéologues japonais. Ça suffit pour eux à déterminer une période. Il y a quelque chose là de nouveau. Ça suffit, donc l'existence de ces poteries, qui sont, je répète, les premières du monde, suffit à déterminer une période. Vous avez donc Jomon Jidai. Jomon, c'est le nom d'un type de poterie particulière. Ensuite, ils vous disent, ah, mais tiens, à partir de moins 300 avant Jésus-Christ, on a des poteries d'un type un peu différent que celle de Jomon. On va donc là penser l'histoire du Japon, enfin, en se disant, tiens, il y a une nouvelle période qui s'ouvre. Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, hein, ça c'est un autre problème. Voilà en tout cas comment s'est construit cette division en Yayoi Jidai. Yayoi, pour les Japonais, c'est la diffusion de la riziculture au Japon. C'est pas la naissance de l'agriculture, vous faites attention. Hein. C'est pas la naissance de l'agriculture, et plus particulièrement de la riziculture, où on cultive le riz, et d'une certaine manière en plus, c'est plutôt la diffusion sur l'ensemble de l'archipel, de façon extrêmement rapide, de la riziculture. Et on s'est dit, tiens là, oui, pardon. Donc, Yayoi, c'est à la fois un nouveau type de poterie, mais c'est aussi la diffusion de la riziculture. Excusez-moi, j'ai pas été très claire. Donc, je répète, Yayoi, Jidai, c'est à la fois l'avènement d'un nouveau type de poterie, qui diffère de celle de Jomon, et c'est aussi la diffusion de la riziculture. Et les historiens se disent, enfin, historiens plutôt archéologues pour ces époques, se disent, tiens, voilà, quelque chose de nouveau apparaît vers moins 300 avant Jésus-Christ, ça vaut bien qu'on ouvre ici un nouveau Jidai. Voilà. Alors, bon, on peut faire comme ça. Bon, et puis je vous dis quand même Kofun. Kofun, je vous dis rien parce qu'on va en parler largement. Donc, vous verrez, ce sont des tombes d'un style nouveau qui apparaissent et qui, selon certains archéologues, méritent qu'on considère que la période est spécifique. D'accord ? Bon. Alors, ça, c'est un premier critère archéologique. Ça vaut surtout pour les premiers Tendai de l'histoire du Japon. Pour tout le reste, si vous regardez, donc, je ne vais pas tout lire, mais si vous regardez, donc, Asuka, Nala, Heian, Fujiwara, Kamakura, Munomachi, etc. Vous voyez, il y a un certain nombre de Jidai dont je vous ai donné les dates. Pour tout le reste, en fait, le critère pour isoler comme ça une période et en faire un tout, il est essentiellement politique. Puisque, ou bien on se réfère à un centre du pouvoir, le centre du pouvoir majeur de l'archipel, dans la période considérée. C'est le cas, par exemple, de Asuka, qui n'est rien d'autre que le nom d'une région qui se trouve dans les environs de Nala aujourd'hui. Donc, Asuka est le nom d'une région. Et on s'est dit, tiens, là, lorsque les Japonais, enfin, qui dominaient l'archipel à cette époque, se sont installés dans cette région d'Asuka, il y a eu là quelque chose de particulier qui vaut qu'on... Mesdemoiselles. Qui vaut qu'on définisse une période à part entière. Nala, c'est aussi le nom d'une ville que vous connaissez tous. C'est une des premières, c'est pas la première, hein. Les premières, en fait, c'est plutôt Asuka, une des premières capitales impériales du Japon. Ensuite, vous avez Heian, qui est, je le dis parce que c'est pas évident, qui est donc l'actuelle ville de Kyoto, que vous connaissez tous, mais autrefois, on l'appelait Heian. Et puis, Kamakura, vous voyez, un peu plus tard. Voilà des villes, en fait, qui ont été des centres de pouvoir au Japon extrêmement importants et qui ont, en fait, ces villes là, on définit une civilisation à leur époque et on a considéré, les historiens ont considéré que ça valait bien ça valait bien une période, un Jidai, d'accord ? Je parlais de familles, donc, ou bien des centres politiques importants, ou bien des familles importantes. Les Jidai sont aussi définis par les familles qui dominent ces époques. Donc, premier exemple, vous avez celle des Fujiwara, donc la grande famille, la très célèbre des familles des Fujiwara, dont on va largement parler, donc qui domine le Japon entre le 9e et le 11e siècle. Là, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis 1185, oui. Non, en fait, vous verrez plus tard que c'est plutôt 1086, mais peu importe, gardez ces dates pour l'instant. Les Fujiwara, c'est une famille. Et vous le voyez, la donc parfois les périodes se chevauchent, puisque la période que l'on définit comme étant celle d'un centre, Heian, c'est aussi... pour une partie, la période que l'on définit comme étant celle de la domination d'une famille, celle des Fujiwara. Donc parfois, ça se chevauche, c'est-à-dire qu'une même période est appelée donc ou bien par le nom de la famille qui la domine, ou bien par le nom du centre du pouvoir qui commande la période. Et puis ensuite, juste un dernier exemple, l'époque d'Edo, par exemple. Donc là encore, deux façons de définir, ou bien par le nom d'un lieu. Ici, Edo, c'est comme ça qu'autrefois on appelait Tokyo. Et à Edo, c'est vrai qu'on régnait les shoguns Tokugawa. On appelle aussi, donc, diversement, et soit dit en passant, sans trop faire de distinction entre la période d'Edo et la période des Tokugawa, c'est un peu la même chose. Les Tokugawa, c'est le nom porté par les shoguns qui habitaient à Edo. Voilà. Bon, donc en fait, là, vous avez une chronologie en Jidai qui permet de comprendre l'histoire du Japon dans sa globalité, ou presque, ou bien en définissant des périodes sur des critères archéologiques, ou bien en les définissant sur des critères politiques. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Dans les livres d'histoire dont je vous parle, vous trouverez donc des chapitres entiers, encore consacrés à l'époque d'Edo, d'autres consacrés à l'époque de Heian, et puis d'autres consacrés, par exemple, à un Nenbo en plein milieu, parce que les auteurs mélangent l'une ou l'autre de ces façons de faire succéder les périodes. Ça va ? Oui ? Bon. Il nous reste la troisième et dernière. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Ça finit quand ?
Ça finit à 5h.
Ah oui, je me disais bien. Vous êtes fatigué et je pense que je le suis aussi. Oui, en plus, je pense que je vais un peu vite. On se fait 2 minutes de pause pour le premier cours, hein? On prend de bonnes habitudes comme ça. Vous verrez, je faisais.
On se fait 2 minutes de pause.
2 minutes de pause.
Ah, putain. Je viens que vous sortiez, mais j'en ai pour 2 minutes. Hein. C'est juste histoire de souffler. C'est pas une pause de 5 minutes, hein. C'est 2 minutes.
C'est plus rien à boire. Ouais,
on arrive à suivre.
Ça a l'air un peu particulière quand même, prof.
Ouais, ça va. Une pire, c'était l'autre là. Le...
Je vous laisse encore 30 secondes de... et on y va après.
L'histoire de l'écriture. Griolet là.
Ah, Griolet, il était mythique. Il est trop fort quand même. Il parle, il s'arrête. C'est ce que j'ai dit.
Et après, il a fait sa voix là, Kaki.
Ah oui, il nous l'a raconté. J'ai raconté. Tu sais, quand il a rencontré la japonaise, on s'est regardé. Et là, c'était magique.
Oui.
Ils sont fait un sourire et puis
après, voilà.
C'est...
Et il a fait du japonais pour ça. C'est pour un instant magique.
Et soit dit en passant, vous pouvez. Je fais jamais de pause au premier cours comme ça, mais je vous l'ai dit, je fais un peu mes cours de façon spontanée. Donc voilà, j'ai eu envie, mais vous n'y avez pas le droit. Hein, je le dis. D'ailleurs, vous n'y aurez pas le droit. Hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire cours pendant une heure et demie, je. Voilà, je vous le dis parce que, comme je suis historienne, je sais comment marche la coutume. Et vous allez vite l'apprendre vous-même en tant qu'étudiant. La coutume, c'est uniquement un droit. Ah, mais ça s'est toujours fait, donc on le fait. Je fais 5 cours avec une pause au bout d'une heure. Au bout du 6e cours, vous allez manifester si je ne fais pas la pause. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on établit les coutumes, mais ça reste à ma discrétion. J'ai vu une main se lever, je prends encore 2 questions et puis ensuite je continue.
Pour les jeunes étudiants au Japon, qu'est-ce qu'ils apprennent
tout... Ils apprennent tout ça, tout ce que je viens de vous dire.
Ils ont 2 systèmes.
Ils ont au moins les 3. Voilà.
Il y en a un qui est.
C'est un mélange. C'est un mélange. Vous allez comprendre quand je vous aurai expliqué le premier, c'est-à-dire que la troisième, c'est un mélange des 3. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, mais comme je ne peux pas vous dire que c'est un mélange sans vous expliquer d'abord les différentes parties, je vous explique d'abord les différentes parties, et après ils mélangent. Et ce qu'on va faire, en fait, par exemple, la façon dont j'ai découpé mon cours, c'est ce que vous retrouvez dans n'importe quel manuel d'histoire du Japon. Voilà. Il y a monsieur, j'ai vu un monsieur qui voulait poser une question, mais non, apparemment. Bon, alors, je continue. Alors, troisième et dernière grande façon de donner des périodes successives à l'histoire du Japon, là, vous allez... C'est bon ? Donc, la pause servant à se reposer totalement. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire.
Genji ou Genji ? Non, c'est ça.
C'est ça, le nom d'un truc. Ça va, je vais pas trop vite ? Je me répète, hein, je le fais exprès. Je me répète. Voilà, et puis bon, ça dépend des séances. Bon, si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. Troisième et dernière façon, une façon très familière, qui date du XXe siècle, qui se trouve à droite de votre document, là, qu'on est en train de lire, une façon très familière, parce qu'en fait, il s'agit purement et simplement de reprendre le système occidental de périodisation de l'histoire. Alors, quand je dis occidental, vous faites bien attention. Dans occidental, il y a Occident. J'oserais au moins appris une chose. Mais quand les Japonais disent Occident, c'est Io, c'est pas écrit, hein, mais quand ils disent Occident, ils pensent à un certain type d'Occident. Jamais celui du Sud, ni celui de l'Est. Pas d'Italie du Sud, ni de Sicile, pas de monde méditerranéen, ni de Hongrie, de Pologne, de je ne sais quel pays, de l'Est ou du Sud. Quand ils pensent à l'Ouest, les Japonais, c'est toujours l'Ouest, Angleterre, France, Italie du Nord, Allemagne. Pour de multiples raisons culturelles, politiques, idéologiques. Donc, quand je parle d'un système occidental, je parle de ce système-là, qui nous est familier parce que vous êtes français et que vous concevez votre histoire avec un empire romain. Avant, il y a eu les Grecs, après, il y aurait eu donc le Moyen-Âge, et ensuite, entre-temps, quelques barbares, le Moyen-Âge, et ensuite, la Renaissance et la période moderne, les temps modernes. C'est comme ça que vous concevez l'histoire. Sachez déjà qu'en Angleterre, c'est un peu différent, que si vous allez à l'Est, allons donc en Pologne, j'y suis jamais allée, hein. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas trop comment ils racontent leur histoire, mais ils ne doivent pas la raconter comme nous. Donc quand je dis, ici, les Japonais s'inspirent de périodisation occidentale, c'est toujours périodisation occidentale comme eux ils l'entendent, c'est-à-dire France, Angleterre essentiellement, un peu d'Allemagne, parce que l'histoire de l'Allemagne c'est un peu compliqué, c'est déjà très exotique même pour nous, et pas vraiment d'autres pays en fait, malheureusement. Alors, cette histoire occidentale, c'est-à-dire telle que nous, Français, on la conçoit, puis on l'a un peu imposée, soit dit en passant, elle se déroulerait au Japon, comme en Occident, elle se déroulerait de la façon suivante, il y aurait une préhistoire, une protohistoire, vous connaissez la différence maintenant entre les deux, ensuite il y aurait une période antique, ensuite, chez nous, viendrait une période médiévale, les temps modernes, la Renaissance, un peu, les temps modernes, et puis ensuite, l'époque contemporaine. Ben, les Japonais, en fait, à partir du XXe siècle, ont adopté ce découpage en quatre temps pour leur propre histoire. Et se sont dit, ben voilà, ce qui correspond par exemple à Kofu, Nasuka, Nala, Heian, vous dites voilà, en termes de Jidai, ça correspond à Kodai, l'époque antique. D'accord ? Donc ils ont mélangé les deux. Ils ont dit que ce qu'ils avaient découvert comme étant des périodes définies sur des critères politiques, grosso modo, ça correspond à une civilisation assez unie. Et cette civilisation lui donne le nom de civilisation de l'Antiquité, Kodai, classique, etc. On verra un peu plus précisément ce que signifie ce terme de Kodai, ou époque ancienne. Et ensuite, on ne va pas tout faire, vous avez soi-disant, c'est pas du tout évident, vous auriez une époque médiévale au Japon, Chusei, entre deux âges. D'ailleurs, Chusei, c'est vraiment entre deux âges aussi. Hein. D'ailleurs, c'est le même mot qui est repris en japonais, Chusei, entre deux âges. Époque moderne, Kinsei. Et Kinsei, c'est vraiment Sei, l'époque Kin, qui est proche de vous, l'époque moderne. Et ensuite, vous avez donc Kindai ou Gendai. C'est un peu compliqué. Au Japon, on dit Kindai. Enfin non, je ne rentre pas dans les détails. On verra ça plus tard. Je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, vous avez là une périodisation, donc massive, là c'est les gros chars d'artillerie puisqu'on a tout divisé en 4 ou 5 portions seulement, et on est très, très familier, nous autres français, occidentaux de l'ouest, on est très familier à cela, ça nous étonne pas, mais c'est pas du tout évident, hein, ça nous étonne pas, mais c'est pas évident de concevoir l'histoire comme ça. Vous allez en Amérique latine où avec les Aztèques, les Incas et d'autres merveilleuses civilisations, on découpe pas l'histoire comme ça. Vous allez mettre un pied en Afrique, on découpe pas du tout l'histoire comme ça, sauf si évidemment, on conçoit les choses de façon très colonialiste, mais cette façon que nous avons de penser l'histoire n'est pas évidente. Nous l'avons inventée, les Japonais l'ont repris, puisque leur modernisation, 19e et 20e, s'est faite sous l'égide en fait occidentale. Donc ils ont repris le modèle qui s'imposait à eux. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est juste, ou que c'est pertinent, ou que c'est bien. Moi, de ces trois systèmes, il en existe bien d'autres, je vous l'ai dit au début du cours, hein, vous avez d'autres façons de penser l'histoire du Japon. Par exemple, mais juste un autre exemple que vous ne notez pas, sauf comme ça, rapidement, vous avez une façon très marxiste, vous avez tous entendu parler de Marx, il paraît qu'il revient à la mode, quand je... Donc c'est un historien, philosophe, économiste, un grand, grand monsieur au 19e siècle, qui revient à la mode. D'ailleurs, j'en suis pas... Personnellement, ça ne me dérange pas trop. C'est un grand penseur, surtout... Il a inauguré une grande école. Et puis il y a des Japonais qui, à partir des années 50, là je parle des années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, qui se sont dit, ben, on va abandonner le système Nengo, les Jidai, on veut pas en entendre parler, l'époque occidentale, ça reste trop bourgeois. Nous, on va penser l'histoire du Japon avec les critères marxistes, et vous avez donc une époque féodale, une époque capitaliste, etc. Et bien sûr, on attend une époque communiste. Ça veut dire que je ne vous présente que ces trois manières, il en existe bien d'autres, marxistes ou non-marxistes, d'autres qu'on va voir en cours, par exemple, vous verrez dans les prochaines séances. Ce ne sont que trois manières. Ce qui est certain, c'est que ce sont ces trois manières-là qui sont suivies, en fait, majoritairement dans tous les manuels d'histoire du Japon et chez la plupart des historiens. Et quand vous trouvez, par exemple, je ne sais pas, même des collections de... Enfin, je dis une bêtise, mais si vous... Enfin, j'en ai jamais lu. Hein. J'en ai un de chez moi, je n'ai pas osé les ouvrir, mais les mangas, par exemple. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent un manga spécialisé dans le Moyen-Âge. Ben voilà, vous savez que ce n'est pas quelque chose de neutre. C'est... Un auteur de manga qui a décidé de présenter le soi-disant Moyen-Âge japonais, sachez-vous que, en fait, il se réfère à un système occidental qui a été pris à un moment donné, pour des raisons données, mais c'est pas forcément la meilleure façon de concevoir l'histoire du Japon, mais comme c'est la plus courante et que je prétends faire un cours consensuel sur l'histoire du Japon, ce que vous allez trouver à droite et à gauche, voilà pourquoi je vous parle en priorité de ces trois systèmes. Donc les aspects positifs, les aspects négatifs, et ensuite, on passe au premier cours consacré consacrée à Kodai, des aspects positifs et négatifs donc respectifs de chacun de ces périodes, de chacune de ces périodes. Alors, si nous pensions l'histoire en Engo, l'histoire du Japon en Engo, j'ai donné un certain nombre d'aspects négatifs. Les aspects négatifs sont largement plus importants que les aspects positifs. Les aspects négatifs, c'est que ça n'a aucun sens pour nous autres historiens qui sommes soi-disant rationnels et scientifiques et qui voyons les choses de façon non magique. Bien sûr, ça n'a aucun sens d'aller reprendre un découpage qui nous est en tout étranger. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je pense que vous avez compris. La seule raison qu'on aurait de périodiser l'histoire du Japon. Ah oui, et puis j'oublie bien sûr, je n'oublie pas le fait qu'il faudrait quand même que nous apprenions par cœur 250 Mengo. J'aime autant vous dire que tout le monde s'y perdrait un peu, japonais compris, soit dit en passant, que d'apprendre par cœur. Remarquez, ça simplifierait peut-être le cours. Voilà, question obligatoire, vous me récitez les 250 Mengo avec toutes leurs dates, de 645 jusqu'à nos jours. Mais vous comprenez que l'exercice serait un bon exercice de mémoire, mais vous avez suffisamment avec les kanji pour exercer votre mémoire. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens même si vous allez retrouver ces Mengo dans des titres de chapitres. Oui, juste, j'aime pas trop les bavardages, je vous le dis comme ça, parce que je vais pas le dire toutes les 5 minutes, donc voilà. L'année dernière, je faisais sortir les gens qui parlaient, c'est assez efficace, je vais pas recommencer, mais j'aimerais pas trop le faire au premier cours. Donc voilà. Donc on va pas prendre ce système, mais il y aurait quand même un avantage, mais qui est pas assez, qui n'a pas assez de poids, si je le compare à tous les autres désavantages. Le seul avantage, c'est que le Nengo colle quand même beaucoup avec, enfin ce système-là correspond beaucoup avec la mentalité des Japonais, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les Japonais, dans leur vie quotidienne, j'entends, hein, mais même les historiens en fait, d'ailleurs c'est parfois un peu pénible de lire des livres d'histoire en japonais de Japonais, parce qu'en fait, comme eux, ils pensent tout un peu en Engo, il faut dire que tous leurs documents sont en Engo aussi, quand il y a la date d'une source, l'empereur ou le fonctionnaire ou le samouraï des rois, j'en sais rien, expriment tout en Engo. Donc évidemment, eux, quand ils parlent de tel ou tel document, de telle chose, sont les historiens donc plutôt tentés de parler en Engo. Donc c'est un peu difficile parce que si vous ne connaissez pas le Nengo, il faut aller chercher dans la liste, il faut savoir de quelle année à quelle année c'est. Puis si c'est la troisième année, vous calculez. Donc 1, 2, 3, ok, c'est l'année. Enfin, vous perdez 10 minutes à retrouver la date occidentale d'un Nengo. Mais c'est vrai que les historiens japonais, donc je le disais, les Japonais dans leur vie quotidienne, même quand ils ne sont pas du tout historiens et qui n'ont strictement aucune idée de leur histoire, ce qui arrive aussi souvent que chez nous, soit dit en passant, vous collez là, avec ce système de Nengo, vous collez vraiment de près à la mentalité des Japonais. Donc je le disais hier, je le dis chaque année, vous ne ferez pas dire à un Japonais de plus de 25 ans, désolé pour la barrière, évidemment qu'il ne veut rien dire, je dis 25 ans comme ça, bon, après c'est vieux, avant c'est jeune, voilà. Moi je suis après 25 ans, je le dis, donc je me mets dans les vieux. Donc vous ne ferez pas, s'exprimer un Japonais autrement qu'en Engo, pour exprimer sa date de naissance, pour exprimer un fait important dans sa vie ou dans la vie sociale. Et comme je le disais hier, j'ai pas encore interrogé un Japonais, mais et j'ose pas le faire en cours comme ça, parce que vous êtes timide et moi aussi, donc comme je sais ce que ça vaut, enfin ce que ça représente de prendre la parole comme ça, je ne poserai pas la question, mais c'est vrai que 2001, je suppose que les Japonais disent plutôt 13e année de l'ère Heisei que 2001. Et de toute façon, leur date de naissance, tout est formulé en Engo au Japon. Et si vous ouvrez le journal, bien sûr, vous trouvez la date occidentale, 17 octobre 2009. Mais en Engo, ça donne quelque chose comme 17e, on est bien 17 aujourd'hui, 17e jour du 10e mois de la 21e année de l'ère Heisei. C'est comme ça que pensent les Japonais. Cela dit, ce que pensent les Japonais et ce que nous pensons en tant qu'historiens, ce sont des choses différentes. Les aspects positifs étant beaucoup moins importants que les aspects négatifs, on ne parlera pas de l'histoire du Japon en Engo. Mais il faut que vous connaissiez ce système, c'est essentiel. Deuxième chose, Jidai. On ne parlera pas de l'histoire du Japon en termes de Jidai. Pourquoi ? Parce que les critères qui définissent un Jidai sont beaucoup trop restreints. Ou bien ils sont archéologiques, et encore... Vous remarquerez, enfin, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi ce que je vous ai raconté, mais franchement, faire la distinction entre des poteries Jiomon et des poteries Yayoi. Non, je suis sérieuse quand même quand je parle comme ça. En fait, c'est des dessins qui les séparent. Oui, Yayoi, il y a c'est cuit dans des fours, alors que Jiomon, c'est jamais cuit dans les fours. Les poteries sont cuites donc sur le foyer lui-même. Bon, penser des milliers d'années comme ça uniquement en termes de différence de poterie, évidemment, ça tient pas tellement la route. Il faut penser en termes de guerre, en termes de fabrication d'outils, en termes de riziculture ou pas, mais on ne peut pas penser en termes de poterie des civilisations entières. Donc en fait, le critère archéologique est limité, le critère politique aussi est limité, parce que par exemple l'époque de Nala ou l'époque de Heian, etc., ce sont des époques en fait où certes sur le plan politique des choses très importantes se sont produites, elles ont leur unité, ces époques de Nala et de Heian. Mais dès qu'on se déplace, c'est-à-dire dès qu'on prend par exemple un critère économique, on peut les mettre dans le même sac, Nala, Heian, on peut quasiment les mettre dans le même sac. Donc ça veut dire que le critère politique, quand il ne joue pas, ne justifie plus le fait qu'on distingue l'époque de Nala de l'époque de Heian, qui sur le plan économique en fait se ressemblent fortement. Et dès qu'on utilise un autre critère, donc le critère politique ne joue plus et finalement ça ne nous intéresse plus trop. Ça nous intéresse plus trop de penser l'histoire de ces époques uniquement en termes politiques, sachant qu'il y a 1000 autres critères économiques, culturels, artistiques, religieux à prendre en compte. Donc ça ne nous intéresse pas non plus. Les didai sont définis de façon trop spécifique, ou sur des critères archéologiques, ou sur des critères politiques. On ne va pas faire de l'histoire du Japon comme ça. Alors on va faire de l'histoire du Japon comme le font tous les manuels d'histoire du Japon au Japon, et puis moi ça me convient assez bien. On va la faire en termes de grandes périodes définies à l'occidental, sachant que c'est très idéologiquement marqué, mais bon, finalement ça tient assez la route, hein, à partir de Kodai, 7e, 12e, donc on va commencer par là. C'est vrai que le Japon présente une certaine unité. Le Moyen-Âge est très troublant, le 12e, 16e, ça ressemble drôlement à notre Moyen-Âge, à peu près aux mêmes périodes. Donc ça, c'est un facteur de plus. Quant au temps moderne aussi, tant qu'à faire, c'est vrai que Kinsei, le Japon de la fin du 16e, début du 17e jusqu'au 19e siècle, c'est vrai, présente de fortes affinités avec ce que nous connaissons dans l'Europe de l'Ouest, aux mêmes périodes. Et le hasard faisant bien les choses, ce qui correspond à nous autres Français, j'entends, hein, France, Angleterre et Allemagne, c'est tout, et encore Allemagne jamais à part, France, Angleterre, c'est tout, hein, donc, mais bon, comme on est français, pourquoi pas. Et donc c'est le plan que j'adopterai. Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, les trois périodes de notre cours. Il nous reste 10 minutes pour la première période. Donc, vous pouvez tourner les pages, voir un magnifique Bouddha de Nala et retrouver mon plan. Alors, donc, comme c'est la première séance, évidemment, je fais beaucoup d'introductions. Je ne vais pas passer mon temps à introduire ce que je vais raconter, mais là, je fais une introduction cette fois-ci spécifique au cours 1. Et je vais vous expliquer donc deux choses. La raison, c'est pourquoi on va commencer par la Chine. Et là, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas japonaise. Et donc, du coup, je fais ce que je veux. Personne n'ira me reprocher de commencer par la Chine, sauf peut-être quelques Japonais présents dans la salle, mais pas moi. Voilà, je le dis depuis 3-4 ans maintenant que je commence par la Chine. Impossible de penser l'histoire de France à partir des années 1900-1940 sans passer par les États-Unis. Ersatz, enfin certains vous diront qu'on est des ersatz d'Américains. Moi je ne le pense pas, bien sûr. Absolument pas, même. Mais c'est vrai que l'histoire de France sans les États-Unis, c'est pas possible au XXe siècle. L'histoire du Japon sans la Chine, c'est pas possible à l'époque antique. C'est carrément pas possible. Alors plutôt que de tourner autour, je vais vous montrer à quoi ressemble la Chine et ce que les Japonais en ont pris. Alors je vais vous expliquer juste deux, trois choses de plus sur ce point. Et puis ensuite, je vais vous donner les caractéristiques principales de cette période qui va durer pas mal de temps, du 7e au 12e siècle. Et je me dépêche un peu parce que je ne l'ai pas encore dit aux autres, mais je le dis à vous. Comme je fais deux fois le cours, l'année dernière, j'ai eu un super décalage quand même entre les deux cours. Parce que bon, l'année dernière, je me laissais aller à des digressions, des choses comme ça. J'essaye de pas trop en faire. Je sais pas si j'en ai fait ou pas, parce que moi je m'en rends pas compte comme je parle de façon assez naturelle. Donc du coup, l'année dernière, je sais pas pourquoi, le deuxième cours, ils avaient un retard, mais très important. À l'examen, ça ne joue pas, ne vous inquiétez pas. Hein. Je prends le cours qui est allé le moins loin. Donc c'est... personne ne perd rien, mais moi quand même ça m'ennuie d'avoir à chaque fois une heure, deux heures ou trois heures de décalage au fur et à mesure que l'année s'écoule, parce que je dis pas les mêmes choses, enfin je dis l'essentiel, c'est exactement la même chose, mais dans mes digressions je ne dis pas les mêmes choses, mais là je vais essayer quand même de garder, de dire les choses avec le même temps de parole. Du coup, parfois j'accélérerai un peu, mais juste un tout petit peu, ne vous inquiétez pas. Là, par exemple, j'accélérerai, voilà. Alors, pour cette introduction, l'histoire de la Chine, parce qu'il n'est pas possible de faire l'histoire du Japon antique sans parler de la Chine, ça n'a aucun sens. L'essentiel, je dis bien l'essentiel, ça ne veut pas dire tout, mais l'essentiel, ce qui fait l'essence de cette civilisation antique du Japon, étant en fait d'origine chinoise. Alors, ne pas connaître la Chine, ne pas avoir une idée de ce qu'était la Chine au 7e et au 8e siècle, c'est... ben, ça n'a pas de sens, voilà. D'autant que la Chine, donc, qui est la grande civilisation de l'Asie orientale au 7e, 8e siècle, en fait depuis quelques siècles quand même, hein, on peut dire que, ben, on peut dire que même jusqu'au 19e siècle, hein, enfin pendant très longtemps la Chine a été la civilisation, mais c'est vrai que se passer de la Chine pour l'histoire du Japon serait d'autant plus absurde qu'on dit, et c'est vrai, que le Japon est le meilleur élève de la Chine. Le Japon antique est le meilleur élève de la Chine antique. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine a rayonné partout dans ce que nous connaissons l'Asie orientale. Elle a rayonné jusqu'au Vietnam, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. Elle a rayonné jusqu'en Corée, bien sûr, jusqu'au Japon et dans d'autres zones. Alors, on ne peut pas dire forcément de pays à l'époque, c'était des peuples, il n'y avait pas forcément d'État, il y avait des Turcs, il y avait des gens. Même, l'influence de la Chine est allée jusqu'en Perse, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Cette influence est allée jusqu'en Perse au 8e siècle, et pour vous dire à quel point les Chinois donc, ont rayonné sur le monde. Mais c'est vrai que de tous les peuples, de toutes les civilisations, de tous les États qui ont reçu cette influence chinoise, le Japon est celui qui a reçu la plus grande influence. Ou plus exactement, est celui qui a cherché cette influence. Donc, ce n'est pas du tout un diktat de la Chine. Hein. La Chine n'a jamais été agressive à l'égard du Japon, donc dans les temps anciens, jamais. Le Japon a très volontairement imiter ce modèle chinois, c'est ça qui fait les choses assez... C'est assez fascinant d'ailleurs de voir comme un pays a très volontairement imité une autre culture sans... Bon, bien sûr, vous verrez à certaines périodes, notamment là où on commence, les Chinois sont plutôt expansifs, c'est-à-dire qu'ils vont un peu se répandre en dehors de leur... militairement parlant, j'entends, en dehors de leur frontières traditionnelles. N'empêche que il n'y a pas de pression militaire exercée sur le Japon. Du coup, cette imitation est fort volontaire et jamais il n'y a que les Japonais pour avoir autant imité le modèle chinois. Donc ça vaut la peine qu'on parle de la Chine, ça c'est la deuxième raison. Et donc, outre la grandeur de la Chine objective sur cette zone, à l'époque où nous commençons l'histoire du Japon, outre le fait que le Japon a été le meilleur élève de la Chine, aucun autre peuple de l'Asie orientale n'a imité autant les Chinois, n'est allé aussi loin, mais on le verra tout de suite, hein, pour tout de suite, on le verra la semaine prochaine. Tout de suite pour s'écarter du modèle, c'est-à-dire qu'on copie et ensuite on en fait ce qu'on veut. Hein. C'est pas une copie servile, absolument pas. En fait, on copie quand même, on imite. Copier, imiter, chez moi, il n'y a pas de valeur positive ou négative. Hein. Mais comme je ne vais pas toujours dire imiter, je dis copier. Je sais qu'en français, copier, c'est un peu c'est un peu péjoratif, mais dans ma bouche, évidemment, ça ne l'est pas. Et troisième chose qui fait qu'on va parler de la Chine, c'est que au 7e et au 8e siècle, justement, lorsqu'on commence notre histoire du Japon, c'est à ces deux siècles-là que le Japon a très intensément imité le modèle chinois. Très intensément. C'est-à-dire qu'avant, on l'imite, mais pas autant. Après, on continue d'imiter le modèle chinois, mais pas autant. Et quand je dis après, c'est jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire que cette influence de la Chine, qu'on va voir très fortement imitée au 7e et 8e, sera très forte au 19e. N'empêche que après le 8e siècle, on prend ses distances, on importe beaucoup moins, on digère. Mais jusqu'au 19e siècle, quand même, le référent des référents, comme chez nous, par exemple, à partir de la Renaissance, les Grecs et les Romains ont servi de modèle de référence, jusqu'à nos jours, hein, parce qu'on étudie encore le latin et le grec. En Chine, au Japon, Je ne sais plus quel était le début de ma phrase, peu importe. Bref, enfin, vous avez compris, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, la Chine est le modèle dominant. À tel point, d'ailleurs, je précise quand même que, là, ce n'est pas la peine de le noter, on verra ça plus tard, mais pour vous donner une idée, tous les concepts majeurs du nationalisme japonais, Dieu sait s'il fut largement entretenu au 19e et au 20e siècle, tous ces concepts-là viennent de Chine. Toutes les références des nationalistes japonais sont chinoises, et cela même au 19e et 20e siècle s'exprimait en chinois. C'est pour vous dire, pour défendre la suprématie japonaise. Donc, jusqu'au bout, on utilise le modèle chinois, mais c'est vrai qu'au 7e et au 8e siècle, jamais autant, on l'a imité. Voilà. J'ai 3 minutes pour vous donner les 3 caractéristiques majeures de cette période, 7e, 12e siècle. Et on commencera d'ailleurs comme les autres. Là, j'en suis bien contente. Donc là, on fait 1h30 pareil. 3 minutes, j'arrête de parler et je vous donne les 3 caractéristiques. Ça va être rapide. Premièrement, le Japon entre le 7e et le 12e siècle, donc le Japon antique, le Japon classique, c'est un Japon qui est marqué par la domination d'un centre que l'on va appeler très bizarrement, enfin très, moi j'aime pas, hein, j'aime, je suis pas d'accord, mais bon, je vais vous le dire quand même parce que c'est ce que vous trouverez partout, qu'on va appeler un État. Le Japon serait dominé par un État. Un État, il y aurait eu un État, qu'on appelle diversement, la première forme d'État, on parle plutôt de cour du Yamato, l'État du Yamato, voilà, c'est-à-dire en fait l'existence d'un certain nombre de clans, en fait ce sont des clans, hein, des structures familiales qui dominent l'archipel, qui dominent l'archipel à peu près tel que nous le connaissons, c'est-à-dire avec, on va commencer. Avec Kyushu, avec Shikoku, c'est pas tout à fait là, mais je vais assez rapidement, et jusqu'au 12e avec Honshu. Voilà ce à quoi ressemble notre Japon du 7e au 12e siècle. Un centre, qui est plutôt justement vers le centre, on verra après où exactement, qui domine en fait les 3 îles constitutives de l'histoire du Japon. C'est très volontairement que je ne représente pas Hokkaido, qui jusque dans les années 1860... ne porte pas le nom de Hokkaido déjà, et n'est pas entièrement, c'est un peu compliqué mais on va aller rapidement pour l'instant, dominé par la cour, par les cours du moment. Donc Hokkaido, vous l'oubliez dans l'histoire, et d'ailleurs dans le plan que je vous ai fait sur le Japon traditionnel, l'île ne figure presque pas. Donc le Japon entre le 7e et le 12e siècle est dominé par un État qui dirige ses cours. L'essentiel du Japon que nous connaissons, Honshu, Shikoku et Kyushu, et cet État, on l'appelle diversement, par exemple, cour du Yamato dans sa première forme. Des institutions donc, qui imitent le modèle chinois, hein, ça c'est évident avec ce que je vous ai dit auparavant, mais en fait, c'est fondamentalement, je dirais, sociologiquement parlant, c'est un ensemble de clans qui dominent les autres. C'est la première caractéristique, et cette domination est assez totale. Elle est à la fois politique, parce qu'on domine avec des institutions qu'on est allé emprunter à la Chine, elle est économique, c'est-à-dire que là, on perçoit des impôts, on ponctue donc des choses dans les provinces, et donc cette domination est économique, elle est aussi culturelle, on impose des manières de voir le monde, des religions, etc. On les impose à l'extérieur du centre, donc ces clans dominants imposent cela à l'extérieur. Cette domination est assez totale, assez totale. C'est la première caractéristique. Ça va, je vais pas trop vite ? Non, mais ça, on verra tout ça en détail. Hein. Deuxième caractéristique, une civilisation de l'écriture. C'est une civilisation de l'écriture pour la première fois dans l'histoire du Japon. Dans cette très longue histoire du Japon, qu'on a vu pouvoir commencer au moins à 10 000 ans avant Jésus-Christ, au 7e, 8e, et puis bien sûr les siècles qui suivent, c'est la première fois qu'on utilise autant cet outil qu'est l'écriture. Autant. Alors cette écriture, elle est d'abord principalement chinoise. On écrit avec des caractères chinois et on écrit en chinois. Au bout d'un moment, on écrira surtout en japonais avec des caractères chinois, mais en fait, pendant le 7e et 12e siècle, la langue officielle, c'est le chinois. Les fonctionnaires écrivent le chinois. Ça ne veut pas dire qu'ils le parlent très bien, ça ne veut pas dire qu'entre eux, ils parlent chinois, mais ça veut dire que tout ce qui s'écrit de façon un peu officielle, les textes de loi se font en chinois, les textes bouddhiques se font en chinois, etc. Donc la langue dominante, c'est la langue chinoise, mais surtout, c'est une utilisation de l'écrit. Tout ce qui se fait désormais s'écrit, et c'est totalement nouveau dans l'histoire du Japon. Avant, on n'écrivait pas, on n'utilisait pas ça. Donc, on dominait d'une façon particulière par la guerre ou par je ne sais quoi, mais l'écriture n'était pas dominante. C'est la deuxième caractéristique. Et je termine très rapidement avec la troisième en un mot. La troisième caractéristique de cette période dite antique, du 7e au 12e siècle, c'est l'adoption du bouddhisme. L'adoption du bouddhisme. Alors évidemment, il est hors de question que je développe ce point, on le fera largement dans les cours suivants. Je vous signale juste que cette adoption ne vaut que pour les élites, que pour ces clans dominants. Le paysan du coin, c'est ce que je disais hier, l'esclave du coin, le paria du coin, et Dieu sait s'il y en a, tous les dominés, ne connaissent pas le bouddhisme. Des millions et des millions de gens ne connaissent pas le bouddhisme entre le 7e et le 12e siècle. Ça reste uniquement une langue de l'élite, des élites. Mais c'est quand même un fait assez majeur pour déterminer la période.
Une langue d'élite ?
Alors, j'ai fini mon cours, mais je prends des questions, oui ? Non, j'ai dû me tromper parce que je suis un peu... Non, une langue. Une religion, j'ai dû me tromper. Oui, j'ai dû me tromper. Oui.
Putain, il y a 4 pages. Ouais.
Il écrivait en chinois. Il le faisait.